en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
À l'occasion du 150e anniversaire de l'un des plus grands sociologues français, Émile Durkheim, l'Académie des sciences morales et politiques a tenu un colloque à l'Institut de France les 4 et 5 novembre 2008. Écoutez maintenant le sociologue Raymond Boudon, qui précise la notion de religion telle que la comprend Émile Durkheim, auteur de l'ouvrage « Les formes élémentaires de la vie religieuse ». Raymond Boudon offre aussi dans cette intervention de nombreux exemples qui font découvrir pourquoi et comment science et magie coïncident. Écoutez Raymond Boudon.
Le chef-d'œuvre de Durkheim sur les formes élémentaires de la vie religieuse, son dernier grand livre, est guidé par une réflexion méthodique sur les principes auxquels la sociologie doit obéir pour expliquer les croyances religieuses en respectant les règles de l'esprit scientifique. En premier lieu, le sociologue doit prendre conscience du fait qu'il n'a pas le même savoir que le croyant dont il cherche à expliquer les croyances. Particulièrement lorsqu'il s'agit, comme dans le cas de Durkheim, de croyants appartenant à une société très éloignée de l'observateur, en l'occurrence les aborigènes d'Australie. En second lieu, le sociologue doit admettre qu'il ne lui est pas possible par principe de reproduire en lui-même les états de conscience d'autrui. La raison en est que les croyances, je cite, « ne peuvent s'individualiser sans être retouchées, modifiées et par conséquent faussées ». Fin de citation. Même deux individus appartenant à un contexte social identique auront de la peine à s'entendre car, je cite, « nous employons tous les mêmes mots sans leur donner le même sens ». Fin de citation. Expliquer les états de conscience d'autrui ne saurait donc se réduire à une tentative d'empathie vouée par la force des choses à l'échec. En revanche, il est possible de discuter rationnellement du point de savoir s'il est légitime d'imputer à autrui tel sentiment, telle motivation ou telle raison à partir de ses déclarations et de l'observation de son comportement. Durkheim propose ici un postulat qui relève, à mon sens, du simple bon sens et que nous mettons couramment en œuvre dans la vie quotidienne. S'il était dépourvu de validité, les enquêtes policières ou judiciaires seraient tout simplement, par principe, dépourvues de tout sens. Exemple d'application de ce postulat, que j'emprunte à Durkheim et qu'il emprunte lui-même, je crois, à Renan, tant que la notion de loi de la nature ne s'était pas imposée, or elle ne s'impose que très tardivement dans l'histoire de l'Occident, les phénomènes naturels étaient expliqués par la volonté des esprits ou des dieux. Il n'y avait donc pas lieu d'opposer des phénomènes naturels résultant de lois à des phénomènes surnaturels n'en résultant pas. Il s'ensuit que la notion de miracle n'a pas de place dans l'univers mental de celui que, au début du XXe siècle encore, on appelle le primitif. Il existe dans son esprit des faits inhabituels, surprenants, admirables, certes, mais non des faits miraculeux au sens où nous-mêmes prononçons ce mot. Troisième point de méthode. Si l'observateur doit se garder de projeter son propre savoir et ses propres concepts dans l'esprit du sujet observé, il doit par contre partir de l'hypothèse que, tout comme lui-même, le primitif ne peut se laisser convaincre que ce à quoi il a des raisons fortes de croire. Le postulat que Durkheim applique ici, utilise ici, pose ici, s'applique sans difficulté à nous-mêmes, aux Occidentaux modernes. Pourquoi croyons-nous que tel remède est bon ? Parce que nous avons foi en la médecine, que nous avons des raisons d'avoir foi en la médecine, et que celle-ci nous recommande tel remède. Durkheim propose tout simplement de considérer qu'il en va strictement de même dans toute culture, et notamment des primitifs. Je cite, excusez-moi une citation un peu longue, mais étant donné que ma présentation de Durkheim n'est pas forcément considérée comme orthodoxe par tout le monde, je préfère m'appuyer sur quelques citations. Donc je cite, « Les rites qu'il emploie, le primitif, pour assurer la fertilité du sol ou la fécondité des espèces animales dont il se nourrit, ne sont pas, à ses yeux, plus irrationnels que ne le sont aux nôtres les procédés techniques dont nos agronomes se servent pour le même objet. Les puissances qu'ils mettent en jeu par ces divers moyens ne lui paraissent pas avoir rien de spécialement mystérieux. Ce sont des forces qui, sans doute, diffèrent de celles que le savant moderne conçoit, mais pour celui qui y croit, elles ne sont pas plus inintelligibles que ne le sont la pesanteur ou l'électricité pour le physicien d'aujourd'hui. » Fin de citation. Pour celui qui y croit, à ses yeux, il importe en effet pour l'observateur de bien distinguer ses propres états d'âme de ceux du sujet observé. Certaines croyances du primitif apparaissent spontanément à l'observateur comme irrationnelles. Pourtant, il doit les concevoir comme émanant de raisons présentes dans l'esprit du sujet observé et qu'il peut comprendre dès lors qu'il fait abstraction de son propre savoir et de sa propre conceptualisation du monde. Les croyances du sujet observé apparaîtront alors à l'observateur comme rationnelles. La méthodologie de Durkheim repose en résumé sur trois principes, à savoir 1. Le principe banal qu'est expliquer n'importe quel phénomène, et en particulier n'importe quelle croyance, c'est en retrouver les causes. 2. Que les causes de toute croyance résident dans les raisons que le croyant a d'y croire, telles qu'on peut les reconstruire à partir de son comportement et de ses déclarations. 3. Qu'une condition nécessaire pour que l'observateur puisse identifier les raisons du croyant et qu'il fasse abstraction du savoir dont il dispose lui-même et qu'il ne peut imputer raisonnablement au croyant. Ce qui crée une certaine confusion, c'est que Durkheim présente son postulat de la rationalité du croyant sous une forme négative. En proposant de traiter les explications des croyances faisant de celles-ci des illusions comme étant par principe dépourvues de valeur. Ces explications irrationnelles sont dictées à l'observateur par l'inconfort intellectuel qu'il éprouve face à des croyances qui ne peuvent manquer de l'intriguer. Mais elles sont inacceptables. Absolument sûr de ce point de méthode, Durkheim tente d'en convaincre son lecteur par des observations évocatrices. On peut facilement avoir l'impression que l'enfant qui bavarde avec son polichinelle croit que celui-ci est vivant. Pourtant, objecte Durkheim, je cite, « L'enfant est si peu dupe de sa propre fiction » qu'il serait le premier étonné si tout d'un coup elle devenait une réalité et si son pantin le mordait. » Fin de citation. Durkheim est très insistant ici. « Même un chat, ajoute-t-il, comprend que la pelote de ficelle qu'il paraissait prendre pour une souris n'en est pas une. C'est pourquoi il s'en désintéresse rapidement. » Quiconque a observé un chat a pu constater que c'est vrai. C'est bien comme ça que ça se passe. Comment croire alors que l'être humain puisse, lui,
à la différence du chat,
être durablement victime d'illusions grossières. Toute l'analyse durkheimienne des croyances religieuses repose finalement sur un pivot, sur un principe fondamental, à savoir que les causes ultimes du fait qu'on croit à ce qu'on croit résident dans les raisons qu'on a d'y croire. Il résulte de ces considérations un corollaire essentiel et qui peut troubler à première vue, à savoir que, pour Durkheim, les croyances religieuses doivent s'expliquer strictement de la même façon que les croyances scientifiques. Mais, comme les croyances religieuses sont d'une autre nature que les croyances scientifiques, elles doivent s'analyser comme résultant d'une adhésion des croyants à des théories concernant une réalité autre que celle dont traitent les sciences de la nature. C'est cette réalité que Durkheim se propose alors d'identifier. Je laisserai de côté la discussion présentée par Durkheim des différentes définitions possibles de la religion pour sauter immédiatement à celle qu'il en propose lui-même et dont je m'excuse de la redonner car elle est très connue. La religion se définit pour lui à partir de la distinction que font tous les hommes entre le sacré et le profane. Des Australiens primitifs qui lui servent de population de référence aux modernes. C'est la distinction entre ces deux mondes qui, selon Durkheim, identifie la sphère du religieux. Comment y a-t-on accès à cette sphère ? Eh bien, l'existence du monde du sacré est révélée à l'individu par un sentiment très particulier, par un sentiment d'une coloration particulière. Je cite « Une crainte sui generis, faite de respect plus que de frayeur, et où domine cette émotion très particulière qu'inspire à l'homme la majesté. » Fin de citation. Ainsi, le monde du sacré est le corrélat objectif d'un sentiment que le sujet identifie comme différent de tout autre et comme très particulier. Ce sentiment peut s'attacher à des objets divers. Il peut être suscité, bien sûr, chez l'individu par l'idée de la divinité ou par celle de forces surnaturelles, mais aussi par des symboles de la société. Et là aussi, tout le monde connaît les analyses de Durkheim à ce sujet. Les symboles de la société comme le drapeau. Le respect particulier qui entoure les détenteurs du pouvoir politique, par-delà les sentiments qu'ils éveillent en tant que personnes, témoigne du caractère religieux de ce respect. Alors je vois très bien l'objection qu'on peut faire ici, c'est que les politiques ne font pas nécessairement l'objet d'un respect complet. Mais ces analyses restent, je crois, tout de même parfaitement actuelles et en aucune façon contradictoires, précisément avec ce que je viens de dire, avec le fait que les détenteurs des plus hautes fonctions politiques soient régulièrement l'objet de sarcasmes. Ça a toujours été comme ça. On parlait des prophètes d'Israël ce matin. C'en est une illustration. Comment expliquer autrement que par ce sentiment d'une coloration particulière, comment expliquer autrement le désir de beaucoup de nos concitoyens de saisir la main du chef de l'État ou les queues interminables qui se forment pour visiter les hauts lieux du pouvoir, la Maison-Blanche ou l'Élysée. Ce n'est évidemment pas seulement leur architecture d'intérieur qu'on vient y admirer. Mais pour Durkheim, si le sentiment de religiosité s'applique à des objets divers et variables d'une société à l'autre, ces objets ont selon lui un trait commun. Et là encore, je ne fais que répéter que ce que tout le monde sait sur Durkheim. Ils sont des symboles de la société. Ce symbolisme peut être immédiatement lisible, comme dans le cas du drapeau ou du haut responsable politique. Il peut aussi être beaucoup plus indirect, reconnaît-il. Mais selon lui, c'est dans tous les cas la société qui constitue l'objet du sentiment du sacré, que cette référence soit immédiatement perceptible ou non. Le caractère très difficilement acceptable de ce point particulier de la théorie de la religion de Durkheim a été souvent souligné, notamment par Raymond Aron, dans son chapitre « Des étapes » sur Durkheim. On accepte fort bien l'hypothèse de Durkheim s'agissant de symboles normalement perçus par le sujet social comme se référant à la société, comme le drapeau ou l'hymne national. On a beaucoup plus de mal à l'admettre s'agissant de symboles qui ne sont en aucune façon perçus par le croyant comme se rapportant à la société. Qu'est-ce d'ailleurs que la société ? Bechler a posé la question ce matin. Au sens abstrait et insaisissable où Durkheim prend ce mot, il s'agit d'un concept tardif. Si vous regardez l'essence du mot société au XVIIe siècle, les sociétés au XVIIe siècle, ce sont les groupements de personnes en face à face. Il s'agit d'un concept tardif et passablement obscur. Il est par contre facile d'accepter l'idée que le sujet identifie comme tel le sentiment du sacré, d'admettre la réalité de la distinction entre le sacré et le profane, ou encore de souscrire à l'idée que la distinction entre le sacré et le profane est plus radicale que la distinction, par exemple, entre le bien et le mal. En effet, le bien et le mal entretiennent l'un avec l'autre une relation logique, ce sont des contraires. Ce n'est pas le cas du sacré et du profane, qui désignent deux mondes conçus comme séparés. On admettra encore que le monde du sacré ne peut être vu comme une illusion, puisqu'une illusion ne saurait être durable. Mais pourquoi faut-il, diable, que ce soit la société qui, s'avançant masquée, postule au titre d'unique corrélat du sentiment religieux ? La conjecture que je défendrai, c'est que le corrélat du sentiment du sacré n'est pas autre chose que ce que nous appelons communément aujourd'hui les valeurs. Le monde des valeurs est distinct de celui de l'être. Il représente bien deux mondes séparés. Les valeurs suscitent bien un sentiment de respect ou un sentiment d'aversion. Mais pourquoi faut-il qu'elles traduisent uniquement un sentiment de respect, je le répète, pour la société ? L'individu n'éprouve-t-il pas un sentiment de ce genre pour la justice ? Pour les plus hauts chefs-d'œuvre de la musique ? Ou pour des performances hors du commun ? Bref, il est plus facile d'admettre que, à la distinction sacré-profane, est associée la distinction entre valeur et réalité que de supposer que le sens du sacré est suscité chez l'individu par la société. On se dispense ainsi, conformément aux prescriptions de Durkheim lui-même, d'introduire l'hypothèse de la fausse conscience ou, comme il dit plutôt lui-même, de l'illusion ou de l'hallucination. L'une des raisons pour lesquelles Durkheim n'a pas envisagé la solution faisant des valeurs le sentiment du sacré, je crois très simple. C'est que le concept de valeur, au sens où nous le prenons maintenant, il suffit de consulter le Littré à cet égard, n'est pas du tout familier de son temps. L'acception moderne de ce mot vient de Nietzsche. Or, en France du moins, la pensée de Nietzsche n'est guère diffusée à l'époque de Durkheim. Il est d'autre part peu plausible que Durkheim ait éprouvé beaucoup de sympathie pour la théorie réductionniste des valeurs que propose Nietzsche, à supposer qu'il l'ait connue. Elle tourne en effet le dos à sa propre théorie, selon laquelle l'expérience du sacré est celle d'une authentique réalité, qui ne saurait par conséquent être réduite à une illusion. En simplifiant, là où, à mon sens, Nietzsche reste proche de la théorie de la religion développée par les philosophes des Lumières, par Feuerbach, qu'évoquait Bertrand Saint-Sernin ce matin, Durkheim, à l'instar de William James, à l'instar de Georg Simmel ou de Max Weber, fait de l'expérience religieuse l'expérience d'une réalité non illusoire. Bref, on peut, je crois, reconnaître l'importance de la théorie de Durkheim sans l'accepter dans son intégralité. Elle contient des propositions que je crois très fortes. Le sentiment religieux est un sentiment sui generis. Il est fait de respect plutôt que de crainte. Il n'est pas le produit d'une illusion. Le monde du sacré et le monde du profane sont plus radicalement séparés que le monde du bien et du mal. Les sentiments religieux saisissent une réalité sui generis. Il suffit alors de conserver ces propositions et de substituer l'idée que le monde du sacré coïncide avec le monde des valeurs à la conjecture fragile de Durkheim lui-même pour obtenir une théorie immédiatement plus solide. Finalement, Durkheim soulève dans les formes élémentaires un problème crucial qu'il ne résout pas. Il félicite
très chaleureusement Kant pour avoir vu qu'il existe un monde du profane et un monde du sacré, et pour avoir supposé que c'est la raison qui donne accès à l'un et à l'autre. La raison spéculative au monde du profane, critique de la raison pure, la raison pratique au monde du sacré, critique de la raison pratique. Durkheim souligne d'autre part que l'être humain n'adhère qu'à ce qui lui paraît reposer sur des raisons fortes. Mais il ne voit pas qu'un lien entre ces points peut être facilement créé à partir du moment où l'on conçoit les valeurs comme rationnelles, comme j'ai proposé de le faire moi-même à plusieurs endroits. N'est-ce pas, par exemple, parce que nous avons des raisons fortes de penser que la démocratie est plus respectueuse de la dignité humaine que d'autres régimes politiques que nous la considérons comme sacrée? Mais Durkheim ne se contente pas d'explorer la nature du sentiment religieux. Il veut aussi expliquer les raisons d'être des catégories fondamentales de la pensée religieuse, comme la notion d'âme. Son analyse est sur ce point, me semble-t-il, particulièrement puissante. Elle l'est aussi s'agissant des croyances magiques. C'est pourquoi je consacrerai à ces deux points les deux dernières parties de cet exposé. Je ne discuterai pas les critiques que Durkheim présente des théories qu'il rejette, de l'origine de la notion d'âme, sauf pour souligner que, conformément à ses principes de méthode, il les repousse toujours au nom du même argument, parce qu'elles font de l'âme une illusion, une hallucination, dont on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le croyant y croirait. Pourquoi, par exemple, le croyant devrait-il imaginer, comme le voulait une théorie très répandue à son époque, que l'âme est un double du sujet dont l'existence lui aurait été suggérée par le rêve? On ne peut, selon Durkheim, absolument pas accepter cette conjecture, pour plusieurs raisons. D'abord, pour la raison générale qu'on ne peut accepter l'idée que l'esprit humain puisse être sujet à des illusions durables, mais aussi pour des raisons plus spécifiques, comme celle de la faible cohérence de l'analogie postulée par la théorie en question. L'âme est bien un double du sujet, mais à la différence du rêveur, elle n'est jamais dans aucune culture considérée comme pouvant remonter le temps. Elle est au contraire toujours strictement contemporaine du sujet. L'âme ne peut pas non plus être assimilée à un esprit, car les esprits sont désincarnés, tandis que l'âme est toujours conçue comme incarnée dans un sujet individuel. Le postulat général qui soutient la théorie de la religion de Durkheim transparaît de nouveau dans cette analyse particulière. En même temps, elle le précise. Non seulement l'esprit humain ne saurait durablement être sujet à l'illusion, mais il tend même à rejeter les analogies douteuses. Mauvaises métaphores et analogies bancales ne sauraient donc être socialement sélectionnées de manière durable. Non qu'elles ne puissent pas apparaître, mais elles ne sauraient être sélectionnées de manière durable. C'est ce postulat qui permet à Durkheim de conclure que le rêve ne peut être à l'origine de la notion d'âme. L'analogie nous paraît comme déplacée et elle l'est tout autant pour le primitif. Bref, une explication scientifiquement acceptable de l'origine de la notion d'âme exige de relever les caractères communs de la notion par-delà ses variations. Car il est vrai que cette notion est indéfiniment déclinée sous des vocables divers, mana, oranda, etc., dans toutes les religions. Je cite, « De même qu'il n'y a pas de société connue sans religion, il n'en existe pas, où l'on ne trouve tout un système de représentation collective qui se rapporte à l'âme, à son origine, à sa destinée. » Simple incidente sur laquelle je ne peux pas m'étendre, c'est exactement ce que dit Tocqueville dans sa théorie de l'âme. Durkheim propose de cette énigme de l'universalité de la notion d'âme la solution suivante. Étant donné les caractères qui sont généralement associés dans toutes les religions à la notion d'âme, de quoi l'âme est-elle le symbole ? Réponse : l'âme symbolise la dualité de l'être humain. D'une part, être singulier, obéissant à des motivations égoïstes. D'autre part, membre d'une communauté morale, invité à réfréner ses passions. Toutes les religions introduisent un moment d'ascétisme, et à se donner des desseins inspirés par des valeurs qu'autrui soit susceptible d'approuver. Un être soumis aux lois de la nature est cependant responsable de ses actes. C'est le problème central de toute une partie de la théologie, bien entendu. Un être à la fois hétéronome, soumis aux lois de la nature, et autonome. On retrouve là, bien sûr, l'inspiration kantienne dans un autre langage. C'est parce que l'âme exprime la dualité essentielle de l'être humain et que cette dualité est bien réelle qu'elle apparaît dans toutes les religions et qu'elle y est toujours dotée des mêmes traits distinctifs. Ces traits sont les suivants. L'âme est toujours conçue comme incarnée dans un individu, comme étant un double de l'individu, comme immatériel, comme contemporaine de l'individu, du moins tant que celui-ci vit, comme immortel, avec plusieurs variantes, comme immortel, soit qu'elle survive à l'individu, soit qu'elle se réincarne d'un individu à l'autre, comme entretenant des rapports complexes avec le corps, comme coïncidant avec l'être même de l'individu dans ce qu'il a de plus profond et comme étant pourtant extérieur à lui. Je cite « Aujourd'hui, comme autrefois, l'âme est d'une part ce qu'il y a de meilleur et de plus profond en nous-mêmes, la partie éminente de notre être, et pourtant, c'est aussi un hôte de passage qui nous est venu du dehors. » Fin de citation. Dans le vocabulaire que je propose, les valeurs auxquelles nous croyons ou que nous rejetons sont constitutives du plus profond de notre moi, mais ce moi n'en est pas la source. Nous ne saurions en effet les percevoir comme des valeurs si nous n'avions pas le sentiment que l'attraction ou la répulsion qu'elles exercent sur nous est fondée en dehors de nous. Pourquoi la dualité de l'individu maintenant est-elle exprimée de façon symbolique ? Parce que, lorsque certaines réalités ne peuvent guère, de par leur nature même, être perçues que de manière confuse, elles sont normalement exprimées de façon symbolique. Je cite « Les réalités auxquelles la pensée religieuse correspond » ne parviennent à s'exprimer religieusement que si l'imagination les transfigure, fin de citation, et les hommes ne sont jamais, je cite, « ne se sont jamais fait une représentation un peu distincte de leur appartenance au monde du sacré qu'à l'aide de symboles religieux, fin de citation. » En même temps, ce symbolisme provoque un profond sentiment d'inconfort intellectuel et suscite un véritable désir, un inévitable désir de clarification. D'où l'importance de la glose. C'est pourquoi on observe, par exemple, dans toutes les religions, un effort que Quillet appellerait un acharnement théologique pour localiser l'âme dans le corps. Pour des raisons qui m'échappent, je n'ai pas d'hypothèse à ce sujet. Durkheim n'évoque pas ici l'hypothèse cartésienne selon laquelle l'âme aurait son siège dans la glande pinéale, je crois que c'est l'hypophyse dans le langage d'aujourd'hui. Il nous permet de mieux comprendre ce point de la pensée de Descartes que le lecteur d'aujourd'hui ne peut percevoir que comme étrange. Or, quand on regarde un peu l'histoire de ces discussions, on s'aperçoit que ces discussions sur la localisation de l'âme, sur la manière de démontrer son existence, se prolonge bien au-delà de Descartes. Au début du XXe siècle encore, Je crois que c'est au début du XXe siècle. En tout cas, c'est bien après Descartes. Un médecin américain du nom de Duncan MacDougall imagina un dispositif visant à mesurer la perte de poids subie par le corps immédiatement après la mort, ce qui, selon lui, permettait de déterminer le poids de l'âme. Il l'évalua à une vingtaine de grammes. Et comme le pelage des chiens retient les liquides qui s'échappent au moment de la mort, écartant ainsi toute modification du poids du corps, MacDougall en conclut que les chiens n'avaient pas d'âme. Malheureusement, il s'en suivit un débat passionné, car le poil ras des souris, n'entraînant pas le même effet que ce qui se passait chez le chien, il fallut accorder une âme aux souris. C'est une discussion qui a pris beaucoup d'ampleur dans le contexte américain. À côté de la théorie de l'âme, la théorie proposée par Durkheim de la magie me paraît être l'une des théories particulières les plus remarquables présentées par les formes élémentaires de la vie religieuse, bien qu'elle soit développée, il faut la retrouver parce qu'elle est développée dans des passages complètement éparpillés de l'ouvrage. Dans une société primitive comme celle des aborigènes d'Australie, la production agricole, la pêche, l'élevage sont toutes des activités qui supposent des savoir-faire. Ces savoir-faire sont tirés pour une bonne part de l'expérience, comme chez nous, comme chez les modernes. Mais les données de l'expérience ne peuvent prendre sens que sur le fond de représentations générales ou théoriques des processus vitaux, de la naissance, de la croissance, de la dégénérescence, de la mort des plantes et des animaux. Ces représentations ne pouvant être directement tirées de l'expérience, le primitif les tire normalement du corpus de savoir disponible et tenu pour légitime dont il dispose. Dans le cas, on le sait bien, des sociétés qui intéressent Durkheim dans les formes élémentaires, ce savoir est fourni par les doctrines religieuses. Ces doctrines jouent donc, dans ce type de société, le rôle de la science dans les sociétés modernes. Elles représentent en effet, selon Durkheim, une première forme de l'explication du monde, je cite, « le grand service que les religions ont rendu à la pensée est d'avoir construit une première représentation de ce que pouvaient être les rapports de parenté entre les choses ». Fin de citation. C'est donc sur les théories religieuses en vigueur dans sa société que le primitif s'appuie pour développer une théorie des processus vitaux, une biologie, entre guillemets bien sûr, pour nous occidentaux. Quant aux croyances magiques, ce sont des recettes que le primitif tire de cette biologie qu'il construit à partir des théories religieuses en vigueur dans sa société. Je cite, « Nous pouvons maintenant comprendre d'où vient que la magie est ainsi toute pleine d'éléments religieux, encore le cas aujourd'hui, c'est qu'elle est née de la religion. » Fin de citation. Une question se pose alors. À la différence des recettes techniques inspirées par la science, les recettes magiques sont objectivement inefficaces. Comment se fait-il donc que leur crédibilité se maintienne en contradiction avec les principes que Durkheim pose par ailleurs et sur lesquels j'ai abondamment insisté. Conscient de cette objection qu'il s'adresse à lui-même, il y répond par une série d'arguments efficaces. Lorsqu'une théorie scientifique est contredite par les faits, déclare-t-il, les hommes de science eux-mêmes continuent couramment de leur accorder leur confiance, car ne pouvant déterminer celui des éléments de la théorie qui est responsable de la contradiction en question, ils peuvent espérer, et il est raisonnable pour eux d'espérer, qu'elle résulte la contradiction d'un élément secondaire et par suite d'une modification mineure se révélera capable de rendre la théorie compatible avec les faits. Au total, il est dans des cas bien plus rationnels de conserver une théorie contredite par les faits que de la rejeter. Cet argument est qualifié par la philosophie moderne des sciences de thèse de Duhem-Quine, du nom de Pierre Duhem, un grand physicien et historien des sciences à peu près contemporain de Durkheim, membre de l'Académie des sciences et enseignant à Bordeaux. La thèse de Duhem Quine, Quine étant le nom d'un philosophe américain très célèbre qui nous a quittés il y a quelques années. Eh bien, on peut dire que par anticipation, Durkheim a de manière extrêmement précise mis sur la table cette fameuse thèse de Duhem Quine que Duhem a vérifiée. Il était, je l'ai dit, un historien des sciences, et il a effectivement vérifié qu'il fallait souvent, dans de très nombreux cas, beaucoup de temps, avant que la communauté scientifique n'accepte une vérité scientifique. On en a des exemples sous nos yeux. Par exemple, l'ulcère à l'estomac. Enfin, la communauté scientifique ne veut toujours pas accepter, dans sa grande majorité, qu'elle est d'origine bactérielle et pas du tout psychologique. Ce qui pourtant est démontré, paraît-il. Exactement comme les hommes de science, ajoute Durkheim, les magiciens primitifs, imaginent sans difficulté des hypothèses auxiliaires. Ils imaginent des hypothèses auxiliaires parce qu'ils ont bien le sens très fort de la contradiction entre leur théorie et les faits. C'est pourquoi ils imaginent des hypothèses auxiliaires. Mais naturellement, ce n'est pas les mêmes que celles des savants. Ils vont supposer que les rituels n'ont pas été accomplis exactement selon les règles, ou bien que les dieux étaient de mauvaise humeur. Alors naturellement, ça nous fait un peu rire, mais ce sont logiquement bien des hypothèses auxiliaires visant à conserver la théorie tout en réconciliant la théorie avec des faits observés. De surcroît, il peut arriver que la réalité, c'est la ruse de la réalité par la liste de Fernunsch, die Liste der Wirklichkeit, il peut arriver que la réalité confirme des croyances fausses. C'est très fréquent. C'est le cas ici. En effet, les rituels destinés à faire tomber la pluie sont effectués quand ? À l'époque où la pluie a plus de chances de tomber. Tout comme les rituels destinés à faciliter la reproduction des troupeaux sont pratiqués à l'époque où les animaux s'accouplent. La croyance des primitifs en l'efficacité de leurs rituels est donc confirmée par l'existence de corrélations qui, bien que fallacieuses, sont tout à fait réelles. Durkheim suggère au total que les croyances collectives que l'on observe dans les sociétés traditionnelles et que l'on perçoit comme magiques ne sont pas d'une essence autre que les croyances collectives qu'on observe dans nos sociétés. Mais comme le développement de la science a frappé d'une obsolescence définitive un certain nombre de ces croyances, quand quelqu'un continue d'y croire, nous avons tendance à le considérer comme irrationnel. Mais c'est du sociocentrisme. La théorie de la magie de Durkheim se caractérise en fin de compte par un degré de crédibilité scientifique très supérieur à celui de ses concurrentes. Il y en a beaucoup, que je n'évoquerai naturellement pas ici. D'où vient cette crédibilité scientifique très supérieure, me semble-t-il ? En premier lieu, parce que si l'on examine le détail de la théorie de Durkheim, elle se compose de deux catégories de propositions. De propositions factuelles avérées et de propositions psychologiques aisément acceptables. Propositions psychologiques très simples, aisément acceptables. Quand on a cru à une théorie pendant longtemps, on n'a pas envie de l'abandonner comme ça. Quand on sait qu'une théorie explique un grand nombre de faits, on ne va pas l'abandonner sans plus ample examen. Propositions psychologiques, certes, mais propositions psychologiques très simples, acceptables. Et quand on examine la manière dont les savants travaillent, on s'aperçoit qu'ils font effectivement ce genre de... Ils ont effectivement ce genre de réaction. En second lieu, cette théorie, elle est bonne du point de vue des propositions qui la composent, qui sont toutes acceptables. Elle est bonne aussi du point de vue des conséquences qu'elle entraîne. Elle permet d'expliquer un très grand nombre de faits dont beaucoup ont été découverts postérieurement à Durkheim, et souvent très longtemps après. Je pense par exemple aux travaux de notre collègue d'Oxford, Thomas, qui a beaucoup travaillé sur la diffusion de la sorcellerie, de la magie en Europe. La théorie de Durkheim explique en effet non seulement le phénomène de la magie lui-même, mais ses variations dans le temps et dans l'espace. Armé de cette théorie, on n'a pas de peine à comprendre que les pratiques magiques ne soit en aucune façon uniformément distribuée à travers les sociétés anciennes. Elles sont par exemple peu répandues dans la Grèce classique. dans la Grèce d'Euripide. Cela est dû à ce que les doctrines religieuses en vigueur dans cette société insistent sur les régularités qui président au fonctionnement du cosmos, ne laissant guère de place aux forces capricieuses que la pensée magique met en œuvre. En revanche, les pratiques magiques sont très répandues dans la Grèce d'Homère ou dans la Germanie antique, car le monde y est conçu comme soumis à des dieux capricieux dont la magie peut tenter d'influencer la volonté. De même, il est facile de comprendre, à partir de la théorie durkheimienne, que la magie blanche, comme la magie noire, la magie blanche est la magie destinée à faire entraîner des effets positifs sur autrui, comme la magie noire, des effets négatifs, la sorcellerie, soit peu répandue en Europe, toute proportion gardée, à la fin du Moyen-Âge. L'Europe est alors dominée par la pensée d'Aristote, dont l'empirisme profond n'encourage guère à expliquer le monde par des forces magiques. Les pratiques magiques qu'on observe alors relèvent de la magia naturalis, la magia naturalis qui est en fait une première forme de la science, Albert le Grand, etc. Ce sont des recettes techniques issues de conjectures relatives aux phénomènes naturels qui ne se distinguent guère dans leurs principes des conjectures auxquelles se livre le savant moderne. La Renaissance s'accompagne en revanche d'un discrédit de l'aristotélisme, auquel se substitue la vogue du platonisme et du néoplatonisme. C'est que les humanistes d'abord on découvre un certain nombre de manuscrits, puis les humanistes du XVIe siècle cherchent à manifester leur modernité par une rupture avec une doctrine aristotélicienne, associée à un Moyen-Âge qu'ils perçoivent comme dépassé. Or, le néoplatonisme est beaucoup plus accueillant, naturellement, que l'aristotélisme aux explications du monde à partir de forces mystérieuses. Alors que les mythes sont considérés par Aristote comme des explications symboliques du monde qu'il faut bien se garder de prendre au pied de la lettre, ils représentent pour Platon des théories sérieuses. Avec le néoplatonisme, s'impose finalement l'idée que les phénomènes naturels sont les effets de forces occultes. C'est sur cette conception du monde que se greffe la magia diabolica, qui n'a plus rien à voir avec la magia naturalis. Elle explique notamment le développement des procès en sorcellerie. La théorie de Durkheim permet de comprendre que la bouffée prolongée, ça je m'appuie sur les travaux de Thomas, Sir Thomas de Oxford, que la bouffée prolongée de magie et de sorcellerie qui apparaît en Europe au XVIe siècle, pour se prolonger jusqu'au premier tiers du XVIIIe siècle, soit localisée dans la partie la plus moderne, et non pas la plus archaïque, dans la partie la plus moderne et la plus développée du continent européen. Elle est en effet beaucoup plus intense en Italie du Nord ou dans le couloir rhénan qu'en Italie du Sud ou en Espagne. Le Dies Irae, le célèbre chef-d'œuvre cinématographique de Karl Dreyer, se passe quand ? Pas au XVe siècle, au XVIIe, bien entendu. C'est le plus beau film, naturellement, sur les procès de sorcellerie. Et l'on peut toujours voir, alors je vous invite à faire du tourisme de ce côté-là, aux Pays-Bas, à Oudewater. Je m'excuse auprès des néerlandophones éventuellement présents ici. À Oudewater, dans la banlieue de Gouda, la balance agréée, la Hexenwaage, c'est presque de l'allemand, Hexenwaage, la balance à sorcières qui permettait aux femmes accusées de sorcellerie, lesquelles venaient souvent de fort loin, de solliciter un certificat d'acquittement. Il leur était délivré dès lors que leur poids rapporté à leur taille était jugé trop élevé pour leur permettre de chevaucher un balai. Le dernier de ces certificats a été délivré en 1729. Au total, la théorie de Durkheim permet d'expliquer facilement la combinaison, à première vue surprenante, contre-intuitive, de modernité et d'irrationalisme. Bien sûr, il y a Galilée, etc., mais qui n'occupe qu'un tout petit espace. La combinaison, à première vue surprenante, d'irrationalisme et de modernité qui caractérise l'aube des temps modernes. De façon générale, elle permet d'expliquer les variations des croyances et des pratiques magiques dans le temps et dans l'espace. Il suffit de faire des recherches empiriques pour compléter, comme l'a fait Thomas, remplira facilement les trous, les lacunes laissées par l'œuvre de Durkheim, mais la théorie explicative permet d'expliquer très très largement les variations des pratiques irrationnelles dans le temps et dans l'espace. Elle permet aussi de comprendre pourquoi science et magie coïncident, après tout, très facilement dans notre monde moderne. Pour conclure, je reprendrai volontiers deux points qui me paraissent essentiels. En premier lieu, les formes élémentaires de la vie religieuse peuvent être tenues, à mon sens, pour un modèle de démonstration scientifique. Durkheim y témoigne d'une aversion sourcilleuse pour les pseudo-explications. Comment admettre que le rêve ait suffi à inspirer la notion d'âme de façon durable? Comment une catégorie aussi universellement attestée peut-elle résulter d'une mauvaise analogie? Comme Max Weber, Durkheim exige du sociologue, c'est toute la théorie de la compréhension, qu'il n'admette dans une théorie sociologique que des propositions acceptables, que des propositions factuelles avérées, et des propositions psychologiques crédibles. On peut par exemple admettre que certaines réalités soient perçues de manière confuse, il n'y a aucune difficulté à cela, mais non que des illusions puissent s'installer de manière durable, ni même que de mauvaises analogies puissent être socialement durablement sélectionnées. On ne peut se contenter de supposer que le croyant croit à ce qu'il croit, qu'il participe à telle cérémonie, ou pratique tel rituel simplement parce qu'il y aurait été conditionné. Selon le préjugé sinistre, c'est une expression que je reprends au grand anthropologue Horton, mais que je partage. Selon le préjugé sinistre des marxistes d'hier ou des culturalistes de toute obédience d'aujourd'hui, il faut aussi que le croyant puisse rattacher l'essai, et là Durkheim est très explicite aussi sur ce point, il faut aussi que le croyant puisse rattacher les cérémonies et les rituels auxquels il participe à des théories auxquelles il ait des raisons de croire. En second lieu, les formes élémentaires de la vie religieuse proposent une théorie réaliste de la religion. La dualité de l'homme est vue par Durkheim comme une réalité, bien que cette réalité soit normalement perçue de manière confuse. La pensée religieuse l'exprime pour cette raison de façon symbolique. La théorie de Durkheim comporte certes une thèse inacceptable, dont j'ai cherché à montrer qu'on peut la détacher, la désolidariser du reste de l'entreprise durkheimienne. Mais j'ai surtout voulu souligner la fraîcheur et la puissance de la théorie durkheimienne. Durkheim pose sur la religion un regard qui tranche radicalement avec celui de la théologie, bien sûr, mais aussi avec les explications qui des philosophes des Lumières, à Feuerbach, à Marx, à Nietzsche, voient dans le sentiment religieux l'effet d'une illusion. Ce point est à rapprocher du fait que, à l'inverse de beaucoup de ses contemporains, Durkheim n'éprouve aucune difficulté à comprendre que la modernité s'accompagne d'une certaine vitalité des sentiments religieux et d'une pérennité des grandes traditions religieuses. En un temps où, en France, la querelle de la laïcité battait son plein, il récusa avec une grande vigueur, en prenant des risques, ceux qui voulaient voir, je cite, « dans le catholique éclairé d'aujourd'hui, une sorte de sauvage attardé ». Fin de citation. En fin de compte, la théorie de Durkheim tranche heureusement avec les essais qui prolifèrent de nos jours et qui voient tantôt la mort annoncée des religions dans la désertification des églises, tantôt à l'inverse, un retour du religieux dans le succès populaire des visites du chef de l'Église romaine ou dans la vitalité de l'islam. Malheureusement, les théories de la religion des grands sociologues, celles de Durkheim, celles de Weber, celles de Simmel, reposent sur une argumentation élaborée, très élaborée, qui est perçue par beaucoup comme après tout aussi difficilement accessible que celles sur lesquelles reposent les grandes théories scientifiques ou philosophiques. Merci.
Vous venez d'écouter le sociologue Raymond Boudon lors du colloque consacré à Émile Durkheim, organisé par l'Académie des sciences morales et politiques.